C'est l'épisode du 7 avril 2020. On est encore dans le milieu de la pandémie. Le podcast, c'est 3D8 plus 4. On a Louis.
Salut Dan, comment vas-tu?
Pas pire, pas pire. J'ai fait une sieste.
Oh, le luxe de la pandémie, une sieste. C'est drôle, moi aussi j'en ai fait une aujourd'hui, c'est drôle. Soit on est en train de vieillir, soit ils sont en train de nous avoir à petit feu.
C'est ça. Au début, on paniquait, on faisait F5, c'est les sites de nouvelles, puis là, c'est comme, ah, j'ai soupé, je vais aller me coucher, faire un petit roupillon. Attendre les directives du gouvernement.
C'est là, Siri, réveille-moi après 10 000 morts, puis tu t'endors.
Oh, c'est dark.
C'est dark, oui. Je suis dark, tu le sais.
Mais oui, ah oui, c'est pour ça que je t'aime. Mais non, c'est ça, on est encore dans le milieu, mais je ne sais pas pour toi, mais on commence à s'habituer ici. Ça commence à filer comme des vieux jeans, là.
On est en notre routine. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je suis tellement habitué que ça va être difficile de retourner au bureau. Je commence à vraiment aimer ça, ma petite routine. Le chien, définitivement, il ne va pas comprendre parce que c'est rendu que si je sors de l'appartement pendant 15 minutes, il freak quand je suis revenu. C'est comme, tu m'as abandonné 15 minutes!
Oui. Oh, donc, les premières journées vont être difficiles pour les animaux. Sérieusement.
Très, très, très difficile. Quand on va voir la lumière au bout du tunnel, eux autres, ils vont freaker.
Oui. Ou on va peut-être avoir, tu sais, des fois, les employeurs qui sont très axés sur l'humain, ils vont peut-être permettre d'avoir des journées d'amener votre animal au bureau pour les acclimater. Mais non, c'est cool. En tout cas, on pogne le beat, là.
Il y a un sérieux potentiel de comédie avec cette affaire-là. J'imagine une réunion dans une salle de conférence avec 10 personnes et leurs animaux de compagnie. Certains, donc, c'est des animaux de compagnie. D'autres, que c'est des animaux de soutien
moral.
Soutien moral. C'est un sketch qui s'écrit tout seul.
Oui, oui. Puis, En tout cas. On s'était dit qu'on parlerait pas de travail.
Non, mais ce que je viens de dire, ça s'applique à n'importe quel corps.
Dans le bureau. Dans non, mais c'est parce que j'en aurais plein à rajouter. Oui, oui, je vais fermer ma gueule, puis on va passer au prochain sujet. Ouais. Qu'est-ce que tu bois, toi, à soir?
Qu'est-ce que je bois? Je suis en train de boire un petit rouge, un Pesquia. C'est un vin français des Côtes-du-Rhône. C'est très bon.
Cool.
Mm-hmm. Puis mon but, c'est de me garder quand même assez cohérent. Donc, quoique, c'est quoi que tu bois?
C'est pas là qui est le fun. Ah non, moi, je suis super sage à soir. C'est j'ai une bonne grosse théière de thé noir, du bon thé de qualité, justement, que mon pusher au bureau m'a apporté.
Wow, tu vas être comment ils appellent ça?
À jeun. Mais oui, je m'efforce, là, parce que, écoute, tu sais, j'ai comme mes jeans de quand je suis gros, puis mes jeans de quand ça va mieux, quand j'ai mon bon beat de vie. Puis là, mes jeans de quand je suis gros commencent à être un peu serrés, fait que j'ai fait, OK, ça fait, on mange mieux, on boit plus de bière, puis on fait du sport.
T'as commencé ça à quelle heure aujourd'hui?
Ouais, c'est ça. Ben, ça fait juste avant ma sieste.
T'as pris la décision, t'as dit, je suis raqué, je prends
du. C'est assez. Ben, juste l'effort de volonté, ça m'a fait mal au point où il a fallu que je m'étende. Non, mais pour vrai, ça va faire du bien, je pense. Là. Honnêtement, bon, pour la santé, tu sais, pour le tour de terre, tout ça, c'est vrai que ça aide pas. Mais ce qui me détruit, puis ça me faisait pas ça avant, c'est la qualité du sommeil. Je me rends compte que ça aide énormément à relaxer rapidement, là, prendre un verre ou deux en soirée, mais j'ai de la misère à bien dormir après. Donc, la qualité de mon sommeil est beaucoup plus importante que d'avoir un piton que je peux peser pour relaxer immédiatement. Faut faire des compromis. Fait que je le fais, puis je ne le regrette pas. Là, ça fait déjà une couple de jours, là, puis je suis content. Donc, on verra, on s'en reparlera la semaine prochaine.
On fera un suivi hebdo sur la situation.
Oui, c'est dommage parce que j'avais commencé un journal de review de 20 dépanneurs, puis il y avait du potentiel pour une capsule. Daniel review le Caballero.
Oh, de Chile.
Ouais.
Cavaliers de
Ouais.
là.
Puis il y avait aussi, il y avait aussi le Smoky Bay, australien, une merveille.
Mais tu sais que quand tu dégustes un vin, tu n'es pas obligé de boire, tu peux le cracher. Puis peut-être que
Ouais.
c'est approprié. Donc on pourrait regarder la chronique, juste bois-le pas.
Mais ça fait des reviews vraiment poche quand tu fais juste le déboucher puis le vider dans l'évier direct. Ouais.
C'est honnête aussi.
Ça
Tu peux le faire
revient
pour.
cher.
En fait, moi, justement, un des enjeux que j'ai en ce moment, c'est que j'ai une espèce de produit nettoyant pour les pinceaux. Puis il m'en reste presque pas. Puis là, je commence à avoir une petite crainte que je ne survive pas à la pandémie. Ben, en fait, que je survive à la pandémie, mais je veux dire qu'il m'en reste plus pour survivre toute la période. Donc, je pourrais peut-être prendre tes bouteilles non vues de vin pour comme
Ouais, moi
thinner pour.
je peux te donner une coupe de marque vraiment pas pire là, pour nettoyer des pinceaux.
Ouais.
OK, ben on va entamer notre liste. Là, pour nos, comme dirait Jean Perron, pour nos écouteurs à la maison, on essaye des façons de prendre des notes avant le show pour avoir comme quelque chose de cohérent. Puis c'est pas rodé. Donc, on s'excuse. On fait notre possible. On va commencer, je pense, avec la section qui s'appelle Louis Jeux.
Oh, OK, le spotlight is on me.
Oui, ben, c'est toi qui as vécu le plus d'émotions, je pense, dans la
Des
dernière semaine.
hauts, des bas, beaucoup de hauts, beaucoup de
Oui.
bas. Puis finalement, ça a débouché justement après un verre et demi de rouge, parce que tout d'un
Bon.
coup, je me suis senti doté. Mais non, c'est ça, j'ai eu beaucoup d'états d'âme autour de Doom, au point où est-ce que je pense samedi, j'étais, c'est fini, je joue plus. Je suis arrivé à un point d'exulture où est-ce que il y a un bout où est-ce que tu dois sauter. Faire une coupe de pirouette, t'accrocher à une barre. En fait, non, c'est t'as quatre ou cinq plateformes qui s'enfoncent, donc il faut que tu sautes parfaitement bien. Ensuite, il faut que tu enchaînes, que tu montes, que tu sautes vers ils appellent ça des monkey bars, j'ai appris. Et à partir du
Ouais.
monkey bar, tu dois sauter, faire comme un double jump, accrocher un dash, faire un double jump, puis arriver, je pense qu'il y a un autre monkey bar, puis ensuite tu arrives de l'autre bord, puis c'est de la lave partout. Donc tu rates, tu meurs, tu recommences. J'ai dû le faire 150 fois. J'ai des sacres en trois langues en moi et j'en ai découvert cinq ou six autres que je channelais de l'araméen, probablement. Je ne savais plus comment sacrer
Tu t'es
le
découvert
flow.
des nouvelles langues.
Tu m'as ouvert l'esprit. C'était comme un peyote trip. Je ne savais plus. Écoute, puis le pire, c'est que oui, ça s'améliore très progressivement. Tu dis, ah, OK, c'est un petit peu. Mais tu crèves pareil, puis tu recommences. Tu crèves, tu commences. Tu
Ouais,
crèves, tu commences.
ouais.
Tu crèves, tu commences. J'ai trouvé ça tellement frustrant que j'ai mis un review négatif sur Steam, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie, parce que généralement, moi, je suis de l'opinion que le review négatif, bouf. Donc, mais cette fois-ci, j'ai mis un review négatif. Puis là, j'ai laissé
Je
ça de
l'ai vu
côté.
en plus.
Ah, tu
Il popait, vu que t'es mon seul ami, en fait,
Ouais.
il popait dans ma page principale de Doom. Puis, ben, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Puis ça fait écho à beaucoup de commentaires que j'ai lus puis que j'ai entendus dans certaines vidéos de review. Je pense qu'on avait quand même mis le doigt sur quelque chose quand on disait que les puzzles de platforming dans ce jeu-là n'étaient pas nécessaires. Après avoir regardé une couple d'entrevues avec, c'est quoi, Hugo Martin, qui est le lead designer, du jeu. Je comprends un peu mieux ce qu'ils ont essayé de faire. Dans le fond, c'était lui, Kyle, all along.
Ah, tiens.
non, mais c'était une mauvaise décision qu'ils ont faite en équipe, là, mais en gros, tu sais, il expliquait un peu c'était quoi les piliers autour desquels ils voulaient bâtir le jeu. Puis le mouvement, c'était un des thèmes qu'ils voulaient mettre dans le mix. Puis, dans le fond, ils voulaient qu'on utilise. Ils veulent qu'on vive les levels comme carrément comme des puzzles à résoudre, des casse-têtes à résoudre en général. Donc, comme quelle arme on utilise contre quel ennemi, où est-ce qu'on se trouve au moment où telle affaire spawn. Puis, le platforming, le mouvement pour se rendre à des endroits, ça fait partie du grand puzzle. Donc, je comprends un peu mieux. Ça ne veut pas dire que je l'apprécie plus qu'avant. Ça me frustre encore autant. Par contre, à un moment donné, on dirait qu'on le pogne. Je suis rendu un peu plus loin que la moitié, là, puis honnêtement, on finit par. Tu sais, il y a deux, trois affaires qui sont tout le temps là. C'est comme, ah oui, OK, je peux pas passer. Ah, c'est parce qu'il y a une affaire sur un mur que je peux m'agripper. Il faut juste que je le trouve. Puis.
Mais moi, c'est pas de trouver. En fait, généralement, je spot très rapidement.
Ça, c'est les monkey bars.
C'est l'orientation, l'arbitraire des distances que tu peux parfois parcourir. Tu regardes la plateforme, tu dis, j'arriverai jamais. Ah non, ouais. En réalité, si tu t'orientes à 15 degrés, puis tu fais 3, puis tu attends une seconde, quand tu commences à tomber, tu fais un double jump, là tu arrives. Ouais. C'est ça, j'ai pas de fun là-dedans. Puis
faut maximiser bloqué. Le deuxième jump, faut vraiment le faire quand ta courbe du premier exact. Commence à descendre. Là, ouais.
Puis le fait que ça, puis je respecte évidemment les designers du jeu pour avoir pris des décisions, mais je suis triste du fait que je suis conscient qu'à un moment donné, je vais arriver à un mur. Je pense pas que je vais pouvoir toutes les passer parce que éventuellement. Cette fois-ci, je sais pas, j'étais à la maison en pandémie, puis j'avais l'ordi qui me guette. Donc, je passais devant le bureau, puis j'ai dit, ah, shit, OK, je réessaye une autre fois, puis je réessaye une autre fois, puis je réessaye une autre fois. Puis, je me suis défoulé sur d'autres jeux, tu sais, on ouais. en parlera tantôt. Mais en revenant, bon, OK, d'accord, j'avais envie, j'ai passé. Mais éventuellement, je vais me tanner, je vais frapper un mur où est-ce que je vais essayer pendant 2 heures, puis je serai pas capable.
Et mais ça, je suis pas certain, honnêtement, je suis pas certain parce que je pense que tu as passé le pire. De ce que tu n'aimes pas. Les autres bouts où il y en a, des choses comme ça, sont un peu plus puzzly, puis sont un peu moins monkey bar-ish.
Okay. Mais les puzzly pour tout ce qui est extra, ça, je trouve ça admirable. Je trouve ça cool parce que ça donne la replayabilité. Comme j'ai vu, ouais. j'ai spoté beaucoup de trucs que j'ai pas résolu. Je suis rendu à peu près la moitié du troisième. Là. J'ai fait pas mal du cultiste, là, le cult. Je sais pas trop quoi, là. Puis là, je suis rendu.
J'ai hâte de t'entendre sacrer vers la fin, là, parce que tu vois.
Ouais, je vais sacrer. Mais là, j'ai sacré un petit peu aujourd'hui, mais j'ai laissé ça. La passe où ce que tu tombes dans un pit, puis t'as des demons qui explosent, que tu dois buter sans arrêt. Ouais. Puis il y a des anneaux.
J'ai recommencé celui-là à peu près 50 fois, mais après ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui clique dans ta tête. Okay. Puis ça va mieux. Mais ce qui m'a sauvé dans cette pit-là, c'est de découvrir qu'il y avait un petit deuxième étage. On peut aller se cacher là pour prendre un souffle.
Ah tiens, ça c'est un bon hint.
Dans la colonne du milieu. Mais c'est ça, à un moment donné aussi, tu vas pogner. La première fois que tu rencontres le Marauder, qui est un boss, où est-ce que si t'es trop loin, il te tire dessus. Si t'es trop proche, il te donne des coups de hache dans le front. Il est tout le temps en train de se protéger quand tu tires dessus. Sauf quand il se lance dans une attaque mid-range, là, ses yeux flashent vert, puis là, tu as une ouverture. Donc, il faut que tu évites tous les autres ennemis qui s'ajoutent pour être gossant, puis aussi pour te donner des munitions puis de la health, là. Mais surtout pour être gossant. Il faut que tu évites ça, puis il spawn une espèce de loup d'énergie là, en feu, je sais pas trop, là, qui te tire dessus constamment, puis il est gossant, ce loup-là. Puis, faut que tu calcules tout le temps ta distance avec le fatigant. Faut que tu le tapes à peu près comme 20 fois au début. Puis là, il se met à flasher, puis tu peux y faire un glory kill. La première fois, ça, c'en est un que j'ai recommencé pendant longtemps. Mais tu le rencontres une deuxième fois. Puis là, t'as des meilleurs weapons. T'as débarré des nouveaux perks, là, des nouveaux, je sais pas comment ça s'appelle, là, des runes, puis bon, t'es un peu plus fort. Fait que la deuxième fois, ça va un peu mieux. La troisième fois, je l'ai one-shoté, man. Je l'ai rencontré une troisième fois, pas mal plus loin, puis sérieusement, il a pas toffé 10 secondes. C'était tellement merveilleux. Fait que ça, c'est une belle... c'est un beau...
Beau signe de progression, en fait.
Mais ça symbolise bien le jeu au complet. Tu rencontres des choses qui filent comme super difficiles, l'environnement file super hostile. Tu dis, je peux pas continuer même, je peux pas continuer à avancer dans un jeu qui me traite comme ça. Puis, à un moment donné, cette même adversité-là, tu la rencontres un peu plus loin. Comme joueur, tu es un peu meilleur, mais ton perso, il est aussi un peu mieux équipé. Puis, finalement, c'est pas si pire. Puis, vraiment plus loin, t'es comme, cette affaire-là, c'est complètement stupide. Puis, ça filait vraiment comme ça dans les jeux de From Software aussi, que j'ai joué beaucoup. Là. Je pense à Dark Souls 1 et 3. Tu sais, le premier bonhomme que tu rencontres, il tue comme 60 fois au début, puis t'es comme tabarnak. Puis, à un moment donné, bien, bien, bien plus loin. Tu regardes en arrière, tu sais, ta progression, puis tu fais « Wow! Je suis rendu que je tue des dragons à main nue. » Puis maintenant, je comprends comment ça marche. Mais c'est ça, le jeu, il fait leveler up le joueur, pas juste le bonhomme, en tout cas.
Non, mais c'est, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que je le vois même. J'ai l'impression, par contre, que pour mon confort personnel et ma santé mentale, je ne sais pas combien de temps je vais m'ostiner si j'arrive à un mur. Mais c'est vrai que tu es pour un grand plaisir à développer du memory muscle, puis à surpasser ou développer des tactiques. L'autre chose qui me déçoit un petit peu, c'est que, ben, en fait, rewind, j'aime beaucoup trouver des façons de passer quelque chose. C'est le fun. Ce que j'aime pas, c'est quand tu as une seule façon de faire quelque chose. Parce que là, je me sens boxé. Puis ça, jusqu'à maintenant, dans les batailles, je ne l'ai pas vu, ça. Il y avait, même les arénas. Écoute, je, comme je te parlais l'autre fois, que je fais une danse un petit peu totalement schizophrène, ou quelque chose dans tous les sens, mais il y a un rythme que tu développes, puis c'est ton rythme. Puis
éventuellement, c'est ta palette. C'est ton coffre à outils, puis tu utilises vraiment. Il y a des meilleures façons de faire des choses, puis si tu es trop con, le jeu, il va te tuer. Puis ça, c'est correct. Mais tu as énormément de liberté créative.
Exact. Puis ça, j'aime ça dans les séquences de fight. Mais je trouve que la même latitude n'existe pas en tout dans le platforming.
Non.
Dans le platforming, il faut que tu fasses exactement comme eux, ils ont mis le pixel au bon endroit. Parce que même si tu vois que tu peux t'accrocher, non, t'es bon.
Faut que tu comprennes le message que le level designer il essaie de te passer. Faut que tu fasses de la télépathie. Il y a une place, là, il y a des monkey bars comme ça, puis il y en a une, elle est fucking loin, mais tu réussis à te rendre si tu sautes comme il faut. Puis là, tu arrives à une autre place, puis là, tu as deux options. Une fenêtre trop haute ou une autre monkey bar trop haute. Puis j'étais comme, ben voyons, je l'essayais, tu sais, puis je tombais tout le temps juste une coupe de pieds avant d'aller. Puis là, ma blonde était comme... « Ça va-tu? » Je n'arrêtais pas de crier après la télé. Fait qu'à un moment donné, j'ai découvert qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a des lumières vertes. Il y a tout le temps comme un petit glow vert à une place. Puis ça, ben, c'est des choses que tu peux puncher. Tu règles des problèmes en punchant dans ce jeu-là.
C'est
très mature émotivement. Non, mais c'est ça. Puis c'était un gros bloc en métal qu'il fallait que tu punches pour l'envoyer à l'autre bout. Puis là, tu montais dessus, puis là, tu étais juste assez haut pour continuer. Mais avant, je le trouve, là, ce petit bloc, là. C'était une demi-heure, puis c'est ça. C'est poche un peu. Mais bon, ça reste un méchant bon shooter.
Oui, exact. Ça reste un excellent jeu avec quelques failles, mais bon, rien n'est parfait dans la vie. Mais
puis même si il fait pas la job pour nous, mettons qu'on finit par se fâcher trop, puis on peut plus avancer, puis c'est beau, on le met sur la tablette, ça reste cool de savoir qu'il existe. c'est ce genre de qualité-là. Ouais.
En fait, il y a une chose que j'ai, tu sais, entre la mission 2 et la 3, tu explores un peu le vaisseau, ça, j'ai trouvé ça hyper cool, les pièces que tu command lock, tout ça. Puis le fait que il y a le Ripatorium, qui est une espèce de prison pour démons, est-ce que tu peux aller te pratiquer? Ça, j'ai trouvé ça le fun. Et ça, c'est quelque chose que je me vois faire pour me défouler. Un petit Ripatorium pour aller...
De temps en temps,
tu sais, après un meeting particulièrement corsé.
Ouais. Mais il faudrait qu'on essaye aussi, il y a les features en ligne là, qui ont l'air quand même assez cool. Peut-être que ça pourrait devenir notre Unreal Tournament du futur.
Effectivement. C'est effectivement.
Mais il est le fun, le vaisseau, à explorer. Tu iras voir quand tu descends l'escalier puis tu vas dans la pièce où est-ce que comme toutes tes armes sur les murs, puis tu as une petite bibliothèque, un petit coin avec tous les toutous que tu as trouvés, ben, les toys. Puis il y a une bibliothèque avec des livres, puis ils ont mis en haute définition les tranches des livres, c'est comment, les épines, l'affaire, là. Le bout de ce que tu vois, le titre.
Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais bref.
La colonne vertébrale du livre.
Ouais.
je cherche mes mots. En tout cas, ça, là, je pense que c'est la tranche. En tout cas.
La tranche, c'est pas de l'autre côté, c'est où est-ce qu'il y a les pages?
Oui, c'est là où est-ce qu'il y a les pages, hein? Ouais. Mais là,
c'est pas grave. Mais en fait, dans la
pièce, ça, là?
Oui.
Ouais. Ben, en tout cas, c'est en haute définition, fait que tu vois des titres de livres pour vrai, puis c'est bien drôle.
Puis un PC dans la salle où est-ce que tu téléportes pour quand tu ouvres l'espèce de portail, dans une de ces salles-là, tu as un PC où est-ce que tu te connectes
dessus. Un vieux Chris de Pentium, là.
Comme un Pentium, puis tu as le loading screen de Doom dans DOS, là, comme 1996, là, genre 95. Très drôle.
On a bien ri.
Mais c'est ça. Ça a été mes sautes d'humeur et beaucoup d'énergie mentale et beaucoup de sacres ont été produits. Par contre, il y a eu d'autres choses cette semaine qui m'ont beaucoup rendu zen. J'ai continué à jouer à Breath of the Wild. Je suis toujours pas sorti de la zone de départ parce que je passe bien trop de temps à gosser, découvrir comment cuire des piments, puis les effets que ça fait. En fait, les premiers piments que j'ai cuits, je les ai pris sur une poêle que j'ai trouvée sur un feu. Puis ensuite, je me promenais, puis là, tout d'un coup, j'ai trouvé un poêle, mais il n'y avait pas de feu. Il a fallu que j'apprenne comment allumer le feu. Comment faire le feu. Ça a l'air niaiseux, dit comme ça, mais c'est extrêmement satisfaisant.
Ça m'apportait tellement de fun quand j'ai commencé à jouer justement à ce jeu-là. Puis j'étais comme toi, là, je voulais pas lire aucun guide au début. Je voulais juste découvrir. Tu sais, ça filait comme t'es en camping, puis t'as besoin de t'as pogné du poisson, puis il faut que tu le cuises. Fait que là, faut que tu fasses ton feu, puis que tu manges. Mais l'environnement est vraiment un personnage. Dans ce
jeu-là. Ah, puis les petits détails, les écureuils qui gambadent partout. Le fait que tu chopes un arbre puis tu peux ramasser des glands qui sont des ingrédients pour autre chose. Il y a un paquet de trucs, puis j'ai aucune idée à quoi ça sert, parce que je ne l'ai pas essayé encore.
Tu vas voir.
Je suis sûr que tout a un usage ou non, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est. Mais vraiment, là, ça m'a donné. J'ai pas énormément joué non plus, je vais le déguster lentement. C'est un peu comme. Fire Emblem aussi, je joue tranquillement, je me brûle pas dessus. Parce que c'est rare que j'ai vraiment envie de m'asseoir dans le salon puis de jouer sur la télé. Puis honnêtement, la portabilité, jusqu'à maintenant, en tout cas, ces deux jeux-là, je trouve que c'est pas des jeux que je jouerais dans le lit ou sur un coin de table non plus. Donc, Non. Je trouve que c'est des jeux que je préfère me perdre dans l'environnement. Ben, peut-être un petit peu moins Fire Emblem, mais définitivement Breath of the Wild. J'aime le jeu
sur la grande télé. Oui, Breath of the Wild, c'est un jeu de télé, absolument, absolument. Puis c'est ça, tu vas jouer en mode mobile quand tu n'as aucun autre choix, puis c'est OK, mais tu veux te filer que tu es dans l'environnement, pas que l'environnement est dans tes mains.
Oui, c'est ça, exact.
J'ai devant moi les différentes parties d'un livre. Puis j'avais raison, ça s'appelle une épine.
L'épine.
Ouais, l'épine. Ok, on a réglé cette question-là.
Merci Google, c'est bien. Puis je me suis remis à jouer à Heroes of the Storm parce qu'en fait, mon intention initiale, c'était de jouer un petit peu à Warcraft. Puis je suis pas rendu au maximum. J'ai fait j'ai pas encore fini la quest qui me permet de faire la dernière aile du dernier donjon. Mais j'ai pas. Ça ne tentait pas. Puis en sortant, je dis, ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Heroes of the Storm. Puis j'ai eu un bon moment de plaisir à explorer. Il y a beaucoup de classes qui ont été tweakées dernièrement, qui ont changé un petit peu leur progression, ce qui fait en sorte qu'une balance. Il y a Deathwing, qui est là dans le jeu depuis un bon bout de temps. Deathwing, c'est le gros dragon qui avait détruit, qui avait fait craquer Azeroth en deux lors de Cataclysme. Puis,
c'est le méchant.
C'est un des méchants. Puis c'est un jeu, c'est un personnage que tu peux jouer, en fait, un héros que tu peux jouer.
Puis quand tu mets à l'échelle,
il est gros, mais il a des pouvoirs intéressants, dans le sens qu'à un moment donné, il peut sortir du tableau, puis réapparaître. Donc, ça donne une sensation de menace quand même. Mais il est bien balancé. En fait, un des choix de balance les plus intéressants qu'ils ont fait, c'est qu'il ne peut pas être guéri par les collègues. Et il y a beaucoup de spells d'entrapment qui ne peut pas être débuffé.
J'aime beaucoup le mot collègue. Je l'imagine au bureau avec sa petite cravate puis ses stylos dans sa petite poche. Là. C'est que... en tout cas. Oui.
Mais non, c'est ça. Donc, ça fait pas mal le tour de mes aspects ludiques cette semaine. J'ai continué avec Warplan. Là, j'ai essayé à peu près tous les scénarios entre 1939 et 1945. Je les ai tous complétés. Donc là, je vais partir une vraie campagne de 1939 à 1945. Je n'ai pas encore décidé si je veux jouer avec les alliés ou l'Axe. J'ai essayé un petit peu toutes les mécaniques d'invasion.
Ça va dépendre comment ça s'est passé dans Doom cette journée-là.
Exact, voilà. Il y a une relation directe à mon ma soif de vengeance.
Quand tu vas te mettre à sacrer en allemand, tu vas savoir.
j'ai joué un petit peu avec l'éditeur qui vient avec et malheureusement, je pense qu'il lui manque un peu d'amour. Il y a des gens qui ont déjà commencé à faire des extensions, mais ça a l'air d'être quelque chose. Là. C'est pas aussi évident que d'autres éditeurs que j'ai vus. Mais bref, éventuellement, ça donne beaucoup de replayability aussi. Donc, voilà. Puis toi, un dernier point que je voulais amener, mais ça, c'est plus un mélange entre tabletop puis jeu.
Ouais.
Pour tous ceux qui sont intéressés, il y a un truc sur Steam qui s'appelle Tabletop Simulator, qui est un engin de simulateur de jeu de plateau. C'est un toolset. Tu peux jouer avec du VR, mais tu n'as pas besoin de jouer avec du VR. Mais ça te représente un environnement 3D où est-ce que tu peux représenter un jeu de plateau, que ce soit les échecs, les dominos ou des choses beaucoup plus sophistiquées. Il y a des adaptations de jeux de plateau officiels comme Small World, Scythe, Gloomhaven, ainsi de suite, que tu as toutes les pièces. Donc, tu invites quelqu'un d'autre qui a le jeu à jouer avec toi. Tu peux jouer jusqu'à je ne sais pas combien de personnes, mais ça dépend des jeux. Puis, tout le monde peut toucher les pièces, les bouger, ainsi de suite. Et tu as des engins, des scripts que tu peux exécuter pour, par exemple, tu peux avoir des scorecards qui te permettent, par exemple, de suivre l'évolution. Puis, si tu avais vraiment une carte avec des pinouches. Donc, par exemple, Zombicide, qu'on a joué qu'on a joué ensemble plusieurs fois en réalité,
oui.
Tu peux le jouer.
In the old life, quand on pouvait se visiter les uns les autres.
Ben, tu peux le jouer. Il n'y a pas d'engin AI, donc c'est vraiment juste pour que des individus jouent dans un environnement 3D des jeux de plateau. Puis, il est à moitié prix, il est à 10$ ou 11$ sur Steam, donc il est vraiment donné.
Wow.
Puis, il y a un workshop où est-ce qu'il y a une quantité phénoménale de skins pour jouer avec tout ce que tu peux t'imaginer de jeux de figurines, de plateaux, ainsi de suite. Je ne suis pas très clair sur c'est quoi la copyrightabilité de certains de ces packs-là, parce qu'il y a littéralement dans le monde de Games Workshop, tu as pratiquement tout. Tu as des Space Marines, tu as des armées complètes de Age of Sigmar, tu as des maps, tu as des gens qui ont fait un port du jeu Warcry au complet, où est-ce que tu peux jouer sur le plateau. Évidemment, tu n'as pas les règles, puis tu as certaines mécaniques, il faut que tu saches comment les utiliser, mais en réalité, c'est vraiment remarquable. Donc moi, ça fait longtemps que je le lorgnais, puis là, à ce prix-là, je me suis dit, je vais l'installer, je joue un peu avec. Puis, il y a certaines choses qui marchent très bien, il y a certaines autres choses que je trouve sont un petit peu crocroches, mais à ce prix-là, honnêtement, là, c'est
pourquoi
c'est
s'en passer?
Pourquoi s'en passer?
Puis c'est le fun, tu sais, si ça fait perdre un peu d'argent à Games Workshop, who cares?
Ben, en fait, je pense pas que c'est un substitut, puis je pense pas, en réalité, s'ils étaient intelligents, ils le verraient comme un gateway game. Parce que c'est une façon géniale d'introduire les mécaniques de jeu à beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement investir, je ne sais pas, $500 dans une armée, mais qui voudraient peut-être essayer les mécaniques d'un jeu. C'est vraiment... En tout cas,
tu fais découvrir avec une version light un peu clunky, puis là, le monde qui accroche, ben là, ils sortent leur argent, puis là, ils se mettent à acheter les vraies figurines.
Puis c'est intéressant parce qu'il y a, tu sais, il y a le jeu, je t'avais parlé il y a longtemps, qui s'appelle Gloomhaven, qui est sorti il y a 2-3 ans.
Oui.
Qui est un
jeu. Les photos de ta table avec Gloomhaven déployé dessus, c'est ça me faisait saliver. J'étais comme, oh my God, ça a l'air le fun. Jamais, jamais je vais être capable d'organiser une game de ça chez nous. On a de la misère à se faire un 2 heures de Dungeons and Dragons à toutes les semaines, puis que tout le monde soit là. Mais bon.
Mais Gloomhaven, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un jeu coopératif de dungeon crawling avec des scénarios où est-ce que les joueurs jouent avec des personnages. Chacun des personnages a des habilités très particulières et un set de cartes. Les mécaniques sont très créatrices. En fait, c'est un blending de plusieurs autres inspirations. C'est aussi un jeu legacy. Donc, ce que tu fais impacte le monde. Et ça change, ça fait progresser, par exemple, la ville, ainsi de suite. Bon, bref, le jeu est sorti il y a 2-3 ans. À un moment donné, il était comme le numéro 1 sur Board Game Geek. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais les créateurs ont commencé à travailler sur la suite qui s'appelle Frosthaven. Puis, justement, un des choix de design, c'est un Kickstarter. Gloomhaven aussi était un Kickstarter. Je pense un des plus successful de Frosthaven de l'histoire. Puis, un des designs choice qu'ils ont fait, c'est qu'il y a, je pense, les trois premiers scénarios de Frosthaven que tu peux jouer avec un ou deux des nouveaux personnages sur Tabletop Simulator. Donc, tu peux le downloader pour l'essayer. C'est comme un démo du jeu que quand tu vas payer le Kickstarter ou tu vas acheter le jeu en magasin dans, mettons, un an, et tu vas avoir les vraies pièces. Un des plaisirs de Gloomhaven, c'est que le jeu, premièrement, qui paye la boîte, pèse 22 livres. Il vient, chacun des personnages vient avec une boîte. Et tout est à l'intérieur de la petite boîte. La figurine, les cartes d'action, une description, et chacune des figurines a des mécaniques distinctes des autres. Tu as 20 ou 22 classes. Puis c'est ça, un des funs de l'expansion, c'est que ça amène, je sais pas, 8 ou 10 nouvelles classes, donc qui vont venir dans des petites boîtes scellées. Et pour ouvrir les boîtes, pouvoir jouer le personnage, tu dois faire des quests. Donc, tu dois faire évoluer
le monde. Faut que tu réussisses les quests d'avant pour pouvoir avancer puis avoir le plaisir de déballer. Ça, c'est génial. Comme avoir quelque chose que tu sais que tu as dans les mains puis que tu peux pas ouvrir tant que les règlements t'ont pas donné le droit, c'est... Ouais. C'est absolument génial.
Non, c'est vraiment... Puis, c'est... Oui, vas-y.
Moi, j'allais juste dire, c'est de pousser le booster de Magic au maximum. C'est l'effet d'ouvrir un booster de cartes.
Exact, c'est vraiment ça. Le plaisir de découvrir, parce que tout le artwork, la figurine, comment que ça fonctionne, sont tous très imaginatifs. Mais c'est le cerf dedans, parce que nous autres, on l'a joué, je pense, pendant un an et demi ou quelque chose comme ça. Puis encore, il y a des personnages, comme je pense qu'il nous en reste trop quatre au vrai. Parce qu'il y en a certains que si tu en ouvres, par exemple, si tu ouvres le je me souviens plus c'est quoi, là, j'ai perdu un peu les noms, mais si tu ouvres celui qui est le Goody Two Shoes, parce que ta réputation dans la ville a monté au point où est-ce que tu es un lawful good, ben, tu pourras jamais ouvrir l'antipalais.
Le méchant.
Ouais. Mais tu sais pas c'est quoi ces talents. Donc, tu as envie de recommencer à jouer et t'en aller dans le côté négatif pour essayer de les ouvrir. C'est brillant. Mais c'est ça. Ça fait pas mal le tour, je pense, pour mes inclinations ludiques de la semaine.
Juste ça?
Une petite semaine.
Alors, c'est tout le temps qu'on avait. À la semaine prochaine.
À part Doom, quoi d'autre?
Ah, à part Doom. Ben, en fait, je balance mes émotions avec, comme beaucoup de monde, je pense, ces temps-ci, entre Animal Crossing et Doom. Donc, je sors mes instincts meurtriers avec Doom. Sérieux, en fin de semaine, là, c'est samedi ou dimanche, là, je pense que j'ai joué 10 heures de temps à Doom. Je me suis levé pour aller faire la bouffe, puis je suis revenu, puis ma blonde m'a entendu crier après l'ordi toute la journée, mais j'ai eu tellement de fun. Puis, c'est ça, on reviendra pas dans toutes les conversations qu'on a eues, là, mais moi aussi, j'ai vécu des moments frustrants, mais à force de persévérer, quand tu passes de l'autre bord, ben ça paye. Ça paye tout le temps plus que ça te fait sacrer. Donc, mon argent est encore bien investi, je considère. Puis, Animal Crossing, c'est pas tant un jeu que juste une place que tu te relogues à tous les jours, puis tu checks. Ah, j'ai reçu de la malle. Ah, mes fleurs y ont poussé. Ah, aujourd'hui, je peux acheter un tourne-disque pour mettre dans ma maison. Fait que, puis c'est le fun parce que tu sais, c'est une île par device. Donc, on joue tous les deux sur la même Switch. Je peux envoyer comme, tu sais, mettons, je craft quelque chose de le fun, ben j'en fais une deuxième copie, je l'emballe, puis je la mets dans une carte postale, puis je la poste à ma blonde. Fait que là, elle, quand elle se log demain, ben, elle a reçu quelque chose, puis elle est contente. Bon. Fait que, tu sais, c'est cute, ça détend, mais je commence déjà à pogner les limites de la partie jeu. Disons que c'est plus comme un genre de sandbox. C'est un sandbox qui fait du bien à visiter, mais j'ai pas le goût de binger sur ce jeu-là pendant 10 heures, justement, un samedi. Je me logue, je fais ma petite heure à tous les jours. Là. Puis,
en fait, ce que tu me décris là, ça me fait penser, je sais pas si tu as essayé SimCity sur l'iPad, ça s'appelle SimCity Builder, ou je sais pas si c'était quelque chose, ou sur iOS. Là. C'est très similaire, comme sauf que ce qui tuait ce jeu-là, c'est le fait que tout était gearé pour que tu achètes éventuellement un currency quelconque.
Mais c'est pour ça que j'ai jamais joué aux versions mobiles d'aucune franchise de EA, parce que EA veulent tout le temps finir par te faire mettre la main dans ton portefeuille pour acheter des affaires. Puis, même si ça a l'air beau et le fun au début, c'est comme... Mais excuse, continue.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cet aspect-là où est-ce que tu as ta ville, tu la fais grandir comme tu veux, tu fais tes choix de design, un peu comme SimCity ou City Builder, tout cela, ou Skylines. Mais il y a une notion de temps que je trouvais très le fun là-dedans. C'est parce que tu ne pouvais pas juste rester 10 heures à jouer le jeu comme tu pourrais avec SimCity puis devenir dingue.
C'est collé sur la vraie horloge, là.
C'est ça. Donc, tu ouais. joues pendant 20 minutes, puis là, tu pars, puis 6 heures après, tu reviens. Ah, tiens, je peux ramasser ça. Tiens, il y a des. Tiens, puis ouais, là, ouais. à un moment donné, tu commences à avoir des missions. Puis ce qui est intéressant, par exemple, c'est que dans ce jeu-là, tu pouvais. Tu avais une espèce de réseau mondial où, est-ce que, par exemple, tu bâtissais l'aéroport. Ben, dans l'aéroport, tu pouvais acheter et vendre des trucs que d'autres personnes qui par exemple, moi, je me spécialisais, je ne sais pas, je faisais des baguettes, tu sais, des boulangers de pain. Parfait, j'en mettais, j'allais dans l'aéroport, c'est pas les vraies choses, là, mais ouais. j'allais dans l'aéroport, puis je pouvais vendre mes baguettes à quelqu'un d'autre qui, lui, en avait besoin pour faire une mission pour garder un quartier tranquille. Puis c'était très. J'ai l'impression que si le jeu, en fait, mon point est le suivant, c'est que le jeu n'avait pas été monté pour faire de l'argent sur des microtransactions, ça aurait été un sandbox global fabuleux. Parce que j'aurais ouais. joué à ce jeu-là pendant des années pour me bâtir une économie qui se tient puis qui dépend des autres. Puis ça, je trouvais ça extrêmement satisfaisant. Parce que tes Simeons, ils ont besoin de, par exemple, je sais pas, ils ont besoin de toutes sortes de tu sais, ben, par exemple, des baguettes ou des trucs comme ça pour que la population grandisse. Puis toi, tu peux pas tout faire. Il faut que tu consommes ce que les autres font.
Tu trouves ton créneau dans la grande. Ouais. Dans la grande. Communauté. Mais il y avait beaucoup de ça dans EVE Online aussi, là, une économie vraiment drivée par les joueurs. Puis ça reste cool un bout de temps, effectivement, parce que c'est comme. C'est pas juste. Tu fais pas juste jouer avec l'ordinateur, tu sais. Il y a des humains en arrière qui sont comme des petits moteurs à faire avancer ta game, puis toi, tu fais avancer leur game, puis. C'est le fun pour ça. Mais effectivement, Animal Crossing, il y a un petit peu de ça, mais c'est à tout petite échelle. Puis on peut aller visiter les îles de d'autres mondes. Là. Si tu as des amis que tu as rajoutés dans ta Switch, tu peux aller les visiter, etc. Mais ça ils ont rendu ça un peu gossant à faire ça. Tu sais. C'est bien, bien guiré pour être une petite expérience locale. Pour tous les membres de la famille qui utilisent le même device. Puis tu as des nouveaux habitants qui viennent s'installer de temps en temps, là, que tu as rencontrés. Il y a des îles, tu peux t'acheter une ticket, puis tu prends l'avion, puis tu vas sur une île qui va exister juste le temps de ta visite. Puis il y a des ressources pas pareilles que sur la tienne. Puis là, tu sais, tu peux te pogner, mettons, je sais pas, moi, c'est la mienne, j'ai des pommes, j'ai des pommiers. Là, j'arrive sur une île où est-ce qu'il y a des noix de coco ou des cerises. Ben là, tu sais, tu peux cueillir ça, tu peux bûcher du bois, tu peux creuser, ramasser des affaires, des whatever, là, des roches, puis plein d'autres ressources qu'il n'y a pas sur ton île. Fait que quand tu reviens avec tout ça chez vous, ben tu peux les vendre avec, tu sais, à des prix vraiment crackpot. Ou si tu pognes des recettes qui ont besoin de des ressources qui ne poussent pas chez vous, ben c'est des îles que tu peux aller visiter puis ramener ces ressources-là pour crafter des affaires plus rares. Mais c'est ça. Ils ont vraiment fait ça pour que ce soit un petit une espèce de petit sanctuaire où est-ce que tu vas te recueillir à tous les jours, puis ça file comme dans ta petite bulle à toi, là, tu sais, ta petite bulle de paix. Puis les connexions avec les autres, je pense qu'ils ont été simplifiés puis streamlinés exprès pour pas que le jeu repose là-dessus tant que ça. Mais c'est ça. Ensuite de ça, Pokémon Mystery Dungeon. Je t'en avais parlé un petit peu l'autre fois, je pense.
Oui, ouais, tu m'en avais parlé assez que je t'allais lire dessus puis regarder les reviews, puis c'est ça. C'est intriguant. C'est un mélange de rogue puis de avec une couche de Pokémon par-dessus, c'est ça?
Oui, c'est vraiment ça. J'avais déjà essayé un truc qui s'appelait Chocobo Mystery Dungeon, qui était basé sur Final Fantasy. Puis tu, dans le fond, t'étais les petits oiseaux, là, les petits oiseaux jaunes là, de Final Fantasy, puis avec un accompagné d'un ami là, humain, là, je sais pas trop. Puis c'est ça, c'est basé. Moi, j'adore les rogues, les nethacks, ces genres de jeux-là. Tu sais, les donjons générés procéduralement, puis des fois, c'est vraiment trop tough. Des fois, ça va vraiment bien. Des fois, tu pognes de la loot hallucinante. Des fois, tu trouves rien d'intéressant. Puis NetHack, c'est un jeu que j'ai sur mon téléphone. Puis à l'époque, j'avais sur mon ordinateur. J'avais découvert ça avec la première distribution Linux que j'avais installée, genre en 96. Puis j'ai jamais arrêté de jouer. Puis c'est, je pense que c'est mon jeu préféré à jouer dans le métro. Tu sais. Il arrive tout le temps des estis d'affaires farfelues où est-ce que je me rends pas plus loin que le troisième niveau. Tu sais. Mais je continue d'essayer. Puis, c'est ça. Pokémon Mystery Dungeon, c'est un peu le cœur. Le cœur est un peu comme ça. C'est un peu le même cœur que tu avais dans Diablo aussi, sauf que Diablo était real-time au lieu d'être turn-based. Tu sais. Mais c'est la même notion. Et puis, là, tu joues un Pokémon avec son ami qui est un autre Pokémon. Puis tous les personnages là-dedans, c'est tous des Pokémon. Il n'y a pas d'humain. Là. Puis là, tout le monde s'exprime super bien en anglais dans celui-là. Comparé au vrai jeu de Pokémon où ils font juste un bruit. Là, ils disent leur nom. Mais c'est le fun. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de richesse côté artistique. Il est beau. Il est vraiment beau. Il est tout comme dessiné, sketché à la main avec la peinture à l'eau. Les environnements puis les personnages. Puis les histoires, en fait, toutes les petites storylines à gauche et à droite, les petites missions que tu fais, sont vraiment écrites avec beaucoup de cœur. C'est le fun. Ça feel comme... T'es pas juste comme, bon, j'ai trouvé l'épée de whatever. Il y a quelque chose qui te drive tout le temps de retourner dans un donjon, aller faire une rescue. Ben, en fait, ça s'appelle le rescue team, je sais plus quoi. Là. Justement, ta raison d'aller dans des donjons, c'est d'aller faire des rescue missions, d'aller chercher soit des items ou des gens qui se sont perdus là, pour plein de raisons différentes. Fait que ça, c'est cool, mais ce qui m'a vraiment, vraiment fait accrocher, c'est la musique.
Pardon?
Les musiques dans les donjons sont tellement catchy. Il y a des petites... ça file un peu chiptune là, avec du petit 8 bits. Là. Puis, je suis comme pas capable d'arrêter de jouer à cause de ça. J'ai tout le temps le goût d'y retourner à cause de ça. C'est vraiment hallucinant. Mais oui, c'est le jeu, je trouvais que pour ce qu'il avait l'air d'offrir, je trouvais qu'il était trop cher. Parce que c'est un full price là, d'un titre AAA. Là. Tu sais, c'est 80$. Là. Mais de ce que j'ai vu, je vais jouer longtemps. Puis à date, j'ai juste du fun avec. Donc, contrairement à justement Chocobo Mystery Dungeon, que la 3D était bizarre, l'histoire était weird, c'était pas bien écrit, ça donnait pas le goût de continuer. Ça filait comme un jeu trop pour enfants. Puis le ton il était bizarre, la direction artistique était bizarre. Fait que finalement, le cœur du jeu, le moteur là, qui est d'aller dans des donjons, là, ben tu débossais vite. Tu sais. Puis il coûtait comme 40$, puis j'ai l'impression d'avoir dépensé 40$ de trop. Tandis que là, c'est quelque chose que je sais, je vais y retourner longtemps. Donc, c'est ça. Ça, c'en est un dont je voulais parler parce que c'est ma découverte de la semaine. Là.
Est-ce qu'il vient toujours de sortir ou c'est une nouveauté ou c'est quelque chose qui est sorti un petit bout?
Je pense qu'il est sorti juste avant les fêtes.
OK.
Ça fait pas longtemps, mais c'est pas la semaine passée non plus. Là. Puis c'est un remake. C'est un remake de quelque chose qui existait sur le Nintendo DS. Ou le 3DS, je sais plus. En tout cas, mais c'est ça, c'est pas brand new, là. Ils ont rien réinventé. Ils ont pris exactement le vieux jeu. Ils l'ont juste retapé à plein de niveaux. Puis ils sont restés très, très fidèles à ce qui faisait que l'autre était bon. Là. Puis ça a l'air que ça marche.
En fait, c'est un lead-in parfait au prochain remake qui est sur le point de sortir, où est-ce que tout le monde en parle, c'est Final Fantasy VII.
Mais j'avais pas fini.
OK.
Je voulais parler de Persona 5 Royal. Non, mais je vais passer vite. J'avais joué un petit peu au 4, qui était un titre sur la PlayStation 2. Puis je jouais sur un émulateur, parce que j'en entends parler depuis... Ça fait 20 ans que j'entends parler de Persona. C'est pas compliqué. Puis, comme quoi que c'est genre un super bon RPG avec un thème un peu plus moderne. Là. J'ai joué super gros aux cartes pendant le temps des fêtes. Puis la petite musique du centre d'achat là, dans Persona 4, là, elle m'a rentré dans la tête à tout jamais. Genre, des fois, quand je fais la vaisselle, je siffle la musique de. C'est quoi? J'ai oublié le nom de la place. Anyway. Junes. Every day is great at your Junes. En tout cas, c'est drôle. Mais Persona 5, j'avais juste vu le. Il y a un des fighters dans Smash Bros. Qui était Joker, le personnage principal, là, je pense, de Persona 5. Et puis, la version. Ils ont sorti la vraie version, comme l'original, sa PlayStation 4 en 2016-2017. Puis là, ils ont fait une espèce de version amélioré, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont amélioré, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ajouté dedans, mais ça a l'air qu'ils ont ajouté beaucoup de stock. Puis elle est sortie il y a pas si longtemps, donc j'en ai profité, je l'ai grabé. Puis ça aussi, je suis tombé dedans, là, tu sais, mon download, il a fini tard un soir, puis j'ai commencé à jouer juste pour voir le petit début, là, tu sais. Puis j'ai joué 2 heures de temps, genre, je me suis couché à 3 heures du matin, cette fois-là. C'est vraiment bon. Mais on rentrera dans les détails du jeu dans un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puis je veux me donner le temps de jouer un peu avant d'en parler. Je voulais juste mentionner que c'était, pour beaucoup de gens, ce jeu-là est un 10 sur 10. Puis c'est un jeu, tu sais, qui a l'air d'avoir un gros, gros impact émotif, puis je commence à comprendre pourquoi. C'est du bon stuff. Puis c'est la compagnie Atlus. Qui fait pas mal juste du bon stuff habituellement. Mais, comme tu disais tantôt, il y a un remake qui sort vendredi. Un remake que tu dois attendre avec beaucoup de fébrilité.
Pour savoir comment l'éviter, éviter. Oui, parce que j'ai... Disons que j'ai jamais été un fan de Final Fantasy, mais il y a plusieurs personnes avec qui j'ai partagé la vie depuis au moins 20 ans. Qui sont des immenses fans. C'est ça. Donc, voilà.
Mais moi, j'ai pas autant de dédain que toi.
C'est pas du dédain. Attends. C'est pas du dédain. J'embarque pas parce que c'est un peu comme. C'est la même chose que Kingdom Hearts. J'ai beaucoup de difficultés à rentrer, à passer la limite de. Mais c'est absurde. Ça clique pas. Puis, c'est triste, c'est dommage parce que je comprends. En fait, j'ai joué pendant 3 ans ou 4 ans à Final Fantasy XIV Online. Puis il y a des choses très le fun. Puis je sais que chacun des jeux a son univers, mais et qu'il y a des choses qui mystérieusement se retrouvent dans chacun.
C'est pour ça que ça s'appelle comme ça tout le temps.
Cet aspect-là, ouais. Là, je trouve l'espèce de multiverse, je le trouve intéressant. Mais bref, Final Fantasy VII, en fait, j'en ai joué une bonne partie. Il y a très longtemps, c'est peut-être celui où ce que j'ai embarqué le plus. Donc, le remake, je serais ouvert à l'essayer. Mais je fais beaucoup de progression. Il y a beaucoup de jeux, par contre, à essayer. Donc, il va être là dans la liste un jour, je vais essayer.
Ouais, c'est ça. Puis, sûrement qu'il va baisser de prix quand dans un an, quand ils vont le sortir sur les autres plateformes. Là, pour le moment, il y a une semi-exclusivité PlayStation. Mais ça ne durera pas. Là. Je pense qu'il disait qu'à partir de mars 2021, il n'y a plus
d'exclusivité.
Il n'y en a plus. Mais c'est ça. Moi, j'ai même pas joué quand il est sorti. J'avais pas de PlayStation quand la PlayStation était
big. La PlayStation 1.
Ouais. La première qui a l'air d'avoir impacté la vie de tellement de gens. Moi, c'est que le TRS-80, le premier Nintendo. Le Super Nintendo. Après ça, je suis tombé dans une espèce de période de ma vie où il n'y avait plus d'informatique et il n'y avait plus de jeux vidéo. J'étais un peu au courant que j'avais des amis qui jouaient au Nintendo 64. J'avais vu Mario 64 de loin, mais pas plus que ça. Puis après ça, là, de l'autre côté de cette période sombre, il y a eu la première Xbox. Puis rien entre les deux. Rien. Donc, j'ai pas. tu sais, le monde qui dit « Ah, Final Fantasy VII, quand j'ai vu ça pour la première fois, ça a changé ma vie. » Je peux comprendre, mais ça n'a pas fait ça pour moi. Parce que j'ai joué pour la première fois en 2010. Genre, quand il l'avait sorti sur la PlayStation 3, je pense. L'original Final Fantasy VII. Puis je pense aussi qu'il y avait une très, très mauvaise version, très buggée sur le PC.
Oui, oui, que j'ai essayé de jouer, effectivement, puis que non. Mais,
Puis, tu sais, c'est vraiment bon, là. C'est vraiment, vraiment bon. Mais ça m'a pas... C'est pas venu me chercher autant que d'autres gens. Mais là, la version... Quand ils ont annoncé en 2015 qu'ils faisaient un remake, écoute, juste de voir comment que le monde tripait, ça me donnait le goût de jouer par sympathie pour eux autres. Puis aussi, tu sais, je veux dire, j'ai fini par jouer là, au vieux, fait que c'est le fun de revisiter ces endroits-là, de voir les personnages avec du bon voice acting, de voir, tu sais, quand une compagnie comme Square Enix se donne tout ce qu'ils ont pour faire un remake à la hauteur des attentes de leurs fans les plus crackpots, là, c'est tout le temps impressionnant à regarder le résultat. T'sais. Donc, je suis hyped. J'ai joué un petit peu. Il y a un démo qui est sorti d'ailleurs. Ça serait peut-être ça la solution pour toi. Là. Ça serait de downloader le démo et de l'essayer si tu avais une PlayStation 4. Mais c'est ça. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, le petit peu que j'ai vu. Puis j'essaie de me garder, de pas trop checker les reviews, mais j'en ai quand même regardé une couple sur YouTube. Puis, man. Ça a l'air de... Ils ont réussi leur pari. C'est sûr que c'est pas la perfection. Il y a des choses qui filent un peu comme du remplissage. Il y a des petits guidis qui auraient pu être mieux, mais en général, ils ont réussi. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Puis je suis content qu'ils l'aient fait en morceaux. Comme là, ça va être juste le morceau qui se passe dans la ville au début, dans Midgar. Puis ça permet de vraiment approfondir cette expérience-là. Ça a l'air d'être un genre de 30-40 heures de gaming, là, si tu fais toutes les affaires autour. T'as comme 15-20 heures d'histoire du c'est principal, puis un autre 15-20 heures de stock side quest, etc. Donc, je trouve que c'est un bon format pour moi. J'aurais peut-être eu de la misère avec un jeu de 200 heures, là. Il y en a trop. Il y en a trop des bons. Mais j'ai hâte. Il est pré-acheté, il est pré-downloadé sur ma PlayStation. Il reste juste à... Puis en plus, vendredi, c'est une journée fériée. Je suis comme... Je vais passer la journée en pyjama. Puis, faire le tour vite, à part de ça, là. J'ai, à côté du lit, quand je me couche le soir, à côté du lit, j'ai ma 3DS. Puis j'ai commencé Dragon Quest 8. Ça faisait un bout de temps que je l'avais acheté. Puis je trippe pas. Il est bizarre. Il contrôle bizarre. Les graphiques sont comme trop gros pour le device. c'est de la grosse 3D lettre. Puis le bonhomme est tout le temps pogné dans le décor. Puis, je sais pas, habituellement, Dragon Quest, pour moi, ça fonctionne, hein, tout le temps. Puis celui-là, je vais lui donner encore une chance, là, mais j'ai de la misère. Puis, fait que c'est ça. Ça fait pas mal de tours pour les jeux vidéo, honnêtement. J'avais une affaire de tabletop dont je voulais parler. Puis c'était, dans le fond, étant donné que tout le monde est en isolation, est-ce que... Tu trouves que ça serait une bonne idée qu'on essaie de starter quelque chose avec Roll20 ou, comme beaucoup de gens, tu trouves que c'est impossible de faire des games là-dessus?
Je pense pas que c'est impossible. J'ai jamais fait un essai sérieux. Okay. On en avait parlé, on avait fait des tests, on avait fait un compte à un moment donné, puis j'ai essayé de mon bord aussi.
Ouais, oui.
Puis c'est. Je connais beaucoup de monde qui ne roule maintenant leur game que sur, en fait, même pas Roll20, mais l'autre produit, là, Fantasy Grounds, qui est le gros éléphant où est-ce que tu as toutes les franchises qui sont dedans, tu peux avoir des modules directement dedans, tout en digital.
Premièrement, juste de regarder le logo, ça vient de te coûter 40$. Là.
À peu près, là, ça coûte une fortune, parce que ça coûte le même prix que le papier, puis c'est comme, on s'entend que Les livres en papier, tu as peut-être 10 ans pour les acheter, mais là, si tu veux t'équiper pour jouer le moins de petits donjons, puis tu vas avoir tel monstre, il faut que tu aies le Monster Manual, puis ça devient hors de prix. Mais au-delà de tout ça, je sais pas, parce que c'est très proche de la discussion sur Tabletop Simulator. C'est que c'est un bon point d'entrée peut-être, mais en même temps, ce qui est le fun du role-playing, je trouve souvent, c'est d'être en groupe ensemble. Puis les mécaniques du jeu, le support matériel, c'est du fun, mais c'est pas là que je vais te trouver généralement. Donc, ouais. Je viens de me contredire trois fois dans ce que je viens de dire, mais en réalité, j'ai des doutes que ça fonctionne, mais je serais ouvert à essayer.
OK, c'est ça. C'est, tu fermes pas la porte complètement, mais t'es pas enthousiaste. Exactement comme dans le temps, finalement. C'est comme, si la pandémie continue encore 6 mois, là, ben on va peut-être commencer à regarder ça, mais en attendant.
Disons que je serais pratiquement plus ouvert à faire un jeu ouvert, où est-ce que tu es sur, en fait, beaucoup plus dégraissé même que Roll20 ou que Fantasy Grounds, où est-ce que tu as un shared screen, un whiteboard partagé, 4 ou 5 personnes avec un casque puis une caméra, puis un jeu dégraissé qui se porte bien, qui fait plus de storytelling avec quelques mécaniques de base, puis peut-être un engin neutre de lançage de dés. Ça, je pense que ça comblerait mon besoin, beaucoup plus.
Ben, en fait, Roll20, les fois que je l'ai utilisé, on l'utilisait exactement comme ça. On n'utilisait aucune des features qui offrent, je pense les feuilles de perso, c'était des feuilles de perso en papier, que le monde il envoyait une photo, il partageait une photo de la feuille de cette journée-là. T'sais, on y allait, on n'utilisait pas aucune des features qui avaient rapport avec les règlements, puis ni les maps avec le Fog of War, puis ces choses-là. Ça marchait pas pire. Mais ouais, tu sais, j'imagine, là, mettons, une espèce de call Zoom, puis un des participants, c'est une caméra qui pointe sur une table avec du papier.
Oui, ça pourrait marcher très bien, je pense. Ouais.
Puis tout le monde est logué. Soit tout le monde est logué ou tu fais les jets de dés sur cette caméra-là qui pointe vers la table. Mm-hmm. Ça, c'est moins le fun parce que les joueurs, un des plaisirs de la vie, c'est de lancer tes dés toi-même.
Puis il n'y a rien qui traduit l'originalité de certains joueurs, certains barbares qui pointent tout le temps des 1 constamment. C'est clair que si tu donnes ça soit à l'informatique, soit à une personne, tu n'auras jamais ces variances.
Non, exactement. Puis je veux dire, qu'est-ce qu'un barbare s'il n'est pas en train de rager?
Voilà.
C'est bon. OK. Ben cool. Je pense que ça fait le tour pour tout ce qui était gaming. Il nous reste il nous reste la TV, la lecture, puis ce qu'on appelle dans les meetings au bureau, les varias.
Les varias.
Ah, c'est que j'ai ça, ce mot-là. Il me semble que j'ai rien que des plaques rouges quand j'entends ça. La varia. Mais ouais. Fait que je sais pas, est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu as regardé à la télé depuis une semaine?
Qu'est-ce que j'ai regardé entre mes crises de rage puis mes moments zen? J'ai regardé la première et la deuxième saison de Castlevania sur tes recommandations que j'ai finalement fini par embarquer. La première saison, pas vraiment. La deuxième saison, un peu plus. Puis là, j'ai commencé la troisième, mais j'adore l'écriture de certains personnages, certains dialogues. J'avoue que ça rentre dans le groove, puis je commence à trouver qu'il y a plus de plasticité dans ce que les personnages essayent de dire, de faire, puis même la profondeur certains discours, de certains dialogues. J'ai même une couple de dialogues que j'ai regardé deux fois parce que, waouh, est-ce qu'il est vraiment en train de dire ce que je pense qu'il est en train de dire? Puis je pense qu'il y a une dimension beaucoup plus profonde que dans les précédents scénarios. Je trouve que surtout la deuxième saison, elle se cherche un petit peu en termes d'histoire, parce qu'en fait, tu regardes les personnages principaux, entre guillemets, qui sont le héros et l'héroïne, si tu veux, ils passent pratiquement 9 épisodes dans une bibliothèque à rien faire, à regarder le plafond. Ouais. Puis tu dis, OK, ça, c'est pas de la bonne écriture. Je comprends ce qu'ils essaient de faire, mais il y a énormément d'intrigues politiques dans la cour des vampires, et c'est ça que tu devines par les reflets. Puis la moitié de chacun des épisodes, c'est des discussions à n'en plus finir entre 3 personnages qui sont pris dans une bibliothèque. Ça, j'ai trouvé que c'était curieux comme choix. Alors que dans le troisième, jusqu'à maintenant, ça bouge vite. Il y a des personnages qui sont imprévisibles. Il y a une haine profonde de la religion à tous les aspects, à peu près dans chacun qui est vraiment magnifique. Donc, j'aime beaucoup. Voilà.
C'est Warren Ellis Unleashed. Ils l'ont lâché là. Ils ont dit, écoute, tu fais vendre la série. Il y a beaucoup de monde qui la regarde. Fais ce que tu veux. La saison 3 est à toi. Puis à date, il a livré. Il a livré. J'ai ri, là. L'épisode 1 de la saison 3, j'ai tellement ri. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, on ne vendra pas aucun punch.
Non, c'est ça. S'il y a une progression, ça vaut la peine que les gens... Si on va la regarder, là, il faut... De toute façon, la saison 3 pourrait pas exister dans un vide. Ça pourrait pas commencer comme ça. Ça prend la progression des personnages.
Il faut la mériter. Il faut avoir passé par la 1 qui était plate, puis avoir commencé à apprécier un petit peu dans la 2. Mais tu peux pas gagner la 3 gratis de même.
Non, c'est ça. Ça te prend le muscle memory approprié pour pouvoir l'apprécier. Les bons sinon, une autre série qui était sur ma liste, parce que tout le monde en parle que c'est génial, puis j'arrivais pas à embarquer, c'est Better Call Saul, qui est un prequel de Breaking Bad que j'avais adoré. Mm-hmm. Puis j'avais commencé, puis j'avais regardé les 3-4 premiers épisodes, puis j'arrivais pas je voyais pas où est-ce qu'il voulait s'en venir. Puis en progressant la première saison, je trouve qu'il y a beaucoup de fluff, beaucoup de chaff, comme ils disent, qu'il aurait pu enlever. Même si le core de l'arc de la progression, en fait, les bouts que j'aime le plus, c'est ceux avec Mike, qui est l'espèce de support, pourrait-on dire, le garde du corps slash ex-corps.
Ouais, Mike, personnage, un des personnages les plus cool jamais écrit dans une série télé, là, qui était aussi dans Breaking Bad. Puis le vieux monsieur qui a tout le temps de l'air. On dirait même pas qu'il a de l'air d'avoir le goût d'être en train de jouer dans une série télé. Je serais tellement mieux dans mon salon en train de manger des chips.
Il y a des scènes, dans la première saison, il est comme garde de parking, dans sa
petite cabine.
Et honnêtement, il a l'air tellement heureux dans sa bulle que tu te dis, pourquoi que les producteurs sont allés le déranger pour jouer dans la série? Il avait tellement fun à faire ses mots croisés.
Mais, il était bien dans son parking.
Ouais. C'est je suis rendu dans la deuxième saison. Je commence à comprendre un peu plus ce qu'ils essaient de faire comme arc de développement. Le problème, c'est que le personnage, je trouve trop... certains de ses choix, je les trouve aberrants. Certains subplots, je les trouve surcompliqués pour rien. Mais je pense que je vais regarder le reste de la série. Ça va probablement m'occuper, du moins pour le reste de la pandémie ou pour un bon bout. Il n'y a pas tellement d'épisodes, donc ça risque d'aller assez vite. Mais c'est un bon... En fait, mon point sur Better Call Saul, c'est que c'est le genre de série que j'ai pas besoin de regarder. C'est pas comme The Wire qu'il faut que tu regardes puis que tu suives. Tu peux l'écouter, puis de temps en temps, jeter un coup d'œil. Donc, c'est la série parfaite pour pendant que je peins mes figurines. Donc, ça m'accompagne.
Il te demande pas trop d'énergie émotive. Là. Il peut être juste là dans le background, puis c'est correct.
Exact.
Puis, c'est une des tonnes d'intro que j'ai eu le plus de fun à apprendre à la guitare puis à jouer. En même temps que l'épisode commence, puis là, je sors ma guitare avec le petit bras de tremolo, puis je la joue pareil. Là. C'est vraiment le fun.
C'est cute. Moi, généralement, quand l'intro arrive, je pèse Skip Intro, qui est un des meilleurs features que Netflix a inventé.
Oui. Le gars qui a inventé ce piton-là, là, il mérite du chocolat puis du bon scotch.
C'est le anti-Kyle. Donc,
oui, c'est ça.
Puis, la dernière chose qui est sortie cette semaine, j'ai regardé le premier épisode. C'est Ozark. Ozark, c'est une série...
Ozark, tu veux dire Breaking Bad moins bon?
Mais différent.
Arrested Breaking Bad Development. Arrested
Breaking Bad. En fait, ce qui est intéressant dans Ozark, c'est comme... c'est un peu le même phénomène que Breaking Bad, mais c'est comment l'intelligence du gars fait en sorte que c'est un... Il est brillant, mais il est en train de courir en avant. Et...
C'est la fuite en avant.
C'est la fuite en avant ultime, mais avec toutes les capacités où est-ce que tu dis, my God, s'il prenait juste. Si, c'est quelqu'un comme joue. Il est en train de jouer au tic-tac-toe comme si c'était une partie d'échecs, puis c'est à peu près ça qui arrive. Je trouve ça satisfaisant.
Oui, non, je suis d'accord. Puis, tu sais, je dis Breaking Bad moins bon, c'est vraiment, vraiment du sarcasme. C'est parce que, au début, tu sais, quand tu commences cette série-là, saison 1, au début, t'es comme « Oh boy, oh, c'est dangereux. » Il qui s'embarque dans quelque chose, là. Puis, tu sais, t'as hâte de voir comment ils vont se démarquer. Puis, ils réussissent. Ils se démarquent. C'est vraiment une bonne série. C'est du bon writing. Les personnages, je les adore. Le cast est absolument en béton armé. Mais C'était un drôle de choix quand même. Tu sais, sérieusement, j'aurais aimé ça être là dans la pièce quand ils ont dit, hey les gars, on a une idée. Puis là, ils ont décrit leur idée, puis il n'y a personne qui a fait comme, c'est parce que ça existe déjà. Mais bon. Mais je suis content qu'ils l'aient faite parce que c'est vraiment bon. Saison 3, par exemple,
Ben, le troisième épisode, ouais, l'as-tu regardé?
je me suis-tu rendu à la fin de la 2? C'est ça que j'essaie de me souvenir, là. Mais on peut pas vraiment en parler sans vendre aucun punch. Fait
Non, c'est
que
ça.
je regarderai si je suis
En fait,
rendu.
le fait qu'il y ait une saison 3, ça peut déjà être un punchline.
Ouais, on sait
Parce
qu'il y a
que.
certaines personnes qui ont survécu.
C'est ça. Voilà. Puis la dernière série dont je voulais parler, parce que ça, c'est un énorme classique que, selon moi, n'obtient pas le mérite. Blake Seven, c'est une série de 67 à 80 qui est écrite par un des écrivains de Doctor Who, qui est un
OK.
arc. Et en fait, la raison pour laquelle je viens d'en parler, c'est que j'ai remarqué que sur YouTube, la série au complet est publiée. Tu peux regarder tous les épisodes. Et c'est une série remarquable au niveau de l'écriture. Pour ceux qui aiment la science-fiction,
OK.
grosso modo, ce que c'est que c'est dans un futur où est-ce que il y a un État totalitaire complet qui contrôle le système solaire. Il y a une bande de rebelles qui sont, en fait, au début, qui sauvent un Blake, le protagoniste initial, qui est un ancien leader de la résistance, qui a été brainwashé, et il le récupère pour lui faire se souvenir qui il était, parce qu'une des mesures de punition de l'État totalitaire, c'est de laver l'esprit des gens. Puis s'embarque dans un arc où est-ce qu'absolument personne est moralement propre et tu commences à te poser beaucoup de questions sur les avantages et les inconvénients. Le fait que je dis ça est quand même impressionnant. Sur l'État totalitaire en termes de structure sociale. Et c'est un mélange de. Ben, premièrement, les effets spéciaux sont atroces, donc ça fait du bien de le regarder juste pour voir. Aujourd'hui, quand on regarde une série télé, on est extrêmement critique sur beaucoup de choses, mais il faut voir en 40 ans comment est-ce qu'on a, ou 50 ans, comment est-ce que l'évolution des effets spéciaux nous ont amené à un autre niveau. Mais la richesse de l'écriture et des dialogues sont spectaculaires, selon moi.
Ça sauve le reste.
Ça a duré 4 ans, si je me souviens bien, donc c'est peut-être une soixantaine d'épisodes maximum, puis c'est des saisons britanniques. Il y a énormément de non-dit également dans beaucoup de scènes où est-ce que tu vois que le monde dans lequel ils habitent, il n'y a pas de l'exposition sans arrêt, un peu comme beaucoup d'autres séries de science-fiction de ces années-là. Et surtout, ce n'est pas un monde noir et blanc. Et je pense que ça a été un début de transition pour tout ce qui est la science-fiction de télé, de se départir des univers noir et blanc où est-ce que c'est
Un méchant,
le.
un bon, puis y a rien entre les deux. Ouais.
C'est pas épisodique, c'est un arc. Tu ne peux pas regarder le sixième épisode, tu ne comprendras rien si tu n'as pas regardé les
Pas
six premiers.
le Monster of the Week.
Pas de Monster of the Week. Il y a des monstres qui deviennent en réalité des alliés parce qu'il y a d'autres. Tu sais, il y a un jeu d'évolution. Bref, c'est à recommander pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Ça s'appelle Blake's Seven. La musique est emblématique. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la musique sans connaître l'émission parce que, honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile à regarder. Là, il y a une version remasterisée, je pense, de la BBC ou ITV, je sais pas, ils ont produit dans les années 2000, où est-ce qu'ils ont pris puis ils ont refait certains effets spéciaux, un peu comme ils ont fait avec l'autre émission Red Dwarf. Mais selon moi, là, c'est à mettre à part. En fait, s'il y avait une transcription en roman de cette série-là, c'est probablement un des rares exemples où est-ce que je vois très bien prendre la série puis en faire une série de 5 ou 6 romans qui traduit, donne un peu plus de profondeur à chacun des dialogues, mais hautement
Puis
recommandé.
sur la couverture des romans, tu as la style image lettre du début de l'émission
Oui,
de
c'est ça.
télé. Là.
Exact.
Mais oui, la façon dont tu en parles, ça serait probablement une des rares shots où est-ce que je serais game de lire quelque chose qui a commencé à télé puis qui a fini en roman après. Sans
Oui,
filer que je trouve que c'est
généralement, les franchises sont pas.
cool.
Ah, ben bon. Puis toi, côté de télé.
Ben écoute, je vais passer vite là, parce que je regarde le compteur, puis on approche notre 70 minutes. Mais rapidement, il m'a pogné un trip de rechecker les vieux X-Files la semaine passée. Puis j'ai un très bon ami qui justement qui les a mis à ma disposition comme ça, là, gratuitement, complètement, tu sais, de la bonté pure. puis je vais me gâter cette semaine. Saison 1 puis 2, là, c'est vraiment du bon stock. Après ça, j'ai commencé à décrocher. Saison 3, c'est la saison où que tu commences, tu es tout enthousiaste, puis tu fais « Oh! Oh! Oh shit! » Puis là, à la fin de la saison 3, c'est fini. Mais tout le reste, j'ai essayé, là. Tout le reste, j'ai pas été capable. Ça commençait à être un petit peu trop loufoque. Puis un peu trop fourth wall breaking, là, à mon goût. Mais c'est ça. Saison 1 puis 2, ça me met de bonne humeur tout le
puis
temps.
Toi, puis dans... toi, est-ce que t'aimais les LARC ou t'aimais les Monster of the Week?
Non. J'haïssais pas quand il n'y avait aucune réponse. Quand tout était un mystère, la grosse arc de background, là, je l'aimais bien. Mais aussitôt qu'ils se sont mis à nous donner des faux espoirs de réponses, puis à nous amener dans des directions, puis à nous amener dans d'autres directions, puis non. À un moment donné, là, c'est comme... Je voulais plus entendre parler des crises d'extraterrestres puis du crise de gouvernement. Là. Je voulais juste comme une bébite, là, un gars qui se transforme en quelque chose. Là. Puis là...
Non, moi, j'ai vraiment toujours été un fan des Monster of the Week, des émissions en capsule, écrites dans un thème autour... Un peu la formule de Supernatural, mais...
C'était l'attrait numéro un de Supernatural. Puis à un moment donné, eux autres aussi, ils se sont mis à capoter avec les anges puis les démons un peu trop fort. Puis il n'y avait plus... Il n'y avait plus, tu sais, juste un épisode avec un Wendigo. Puis c'est ça. C'est ce que j'en ai.
Chupacabra!
Mais tu te souviens, celui, justement, avec le Wendigo, je sais pas s'il s'appelait comme ça, là, là-dedans, mais tu sais, quand il... Le gars qui a faim, qui est joué par le gars de Evil Dead. Là.
Je me souviens pas de ça.
C'est un des bons épisodes. Autant pour le writing que pour les effets spéciaux. C'est... Puis tu sais, ça fait tout le temps du bien de voir ce gars-là. Ah non, je me trompe complètement. Le gars de Evil Dead, il a été dans un épisode, mais il était c'était un genre d'affaire démoniaque. Le gars qui a faim, c'était pas le même gars du tout. C'était un nobody qu'on n'a plus jamais revu, mais qui y ressemblait. Mais je vais, ouais, en tout cas, je viens d'avoir un flash. Désolé. Mais c'est ça. Donc, vieux X-Files, puis dans les mêmes années, Kids in the Hall. C'est comme, j'ai tout le temps, en background, j'ai tout le temps comme, tu sais, des épisodes de Seinfeld, des épisodes de Kids in the Hall. Ces temps-ci, j'ai embarqué beaucoup Brooklyn Nine-Nine dans la rotation. Mais tu sais, The Office, là, des séries que tu peux mettre, tu fais play, puis tu peux faire autre chose, puis de temps en temps, tu portes attention, puis tu fais... Ça fait du bien. Hein. Ouais. Ben, je me suis retapé toutes les saisons de Kids in the Hall en commençant par la première. Puis, tu sais, il n'y a pas grand-chose de drôle, mais c'est tout le temps tellement bon. Pour moi, en tout cas, ça fait la job. Mais c'est ça. À part de ça, côté série télé. Je suis pas. Je sais pas, je trippe moins Netflix. Ben, c'est sûr, je me suis tapé Castlevania, puis après ça, j'ai pas arrêté de t'en parler. Mais j'ai pas de la pulsion de m'asseoir devant la télé tant que ça, ces temps-ci. J'ai plus le goût de m'installer avec un bon livre. La beauté d'être pogné à la maison, c'est que j'ai des livres que j'ai juste une version papier. Puis c'est des briques, là. Mm-hmm. J'ai le goût de recommencer les chroniques d'Ambre. De Roger
Zelazny. Ah oui, ah, ça c'est une bonne série.
J'ai vraiment, vraiment le goût de me retaper du début, là, parce que j'avais comme le premier livre en version électronique, mais j'avais jamais mis la main sur la collection complète, là. Le Great Book of Amber. Mm-hmm. Donc, c'est ça, je l'ai en papier, puis tu sais, je serais pas en train de lire dans le métro pour un petit bout, fait que c'est le temps.
C'est une bonne série. T'as deux chroniques, en fait. T'as les cinq premiers.
Les cinq premiers qui sont bons, puis les cinq derniers qui sont très mauvais.
Oui. Mais que tu lis pareil, parce que c'est Zelazny pareil. Là, puis, c'est ça. Puis moi, je les avais lus dans les petits livres. C'est des petits livres, quand même. Chacun des livres, c'est peut-être 200 pages dans ce mois-là. Là. Oui. 200, je les ai lus dans les... Dans la, mais je les ai encore quelque part dans une boîte. C'est l'édition Ace Books, là, qui était... C'est cheap à 2,99 dans les années 90.
Fais-tu les pochettes, les covers qui avaient mis de la 3D comme ils étaient bumpy, là?
Non.
Non, OK. Parce que moi, c'est ceux-là que j'avais en version single. Mm-hmm. Puis écoute, je t'ai montrerai. Ça ressemble à des romans harlequins.
Oui, ben, il y a toute la phase des années 80, les romans de fantasy, tu regardes les couvertures, c'est comme la Belgariade, puis tout ça. Puis
c'est les mêmes artistes, en fait.
Les mêmes artistes. C'est un roster d'artistes parce que tu reconnais les styles. Puis ce que je trouve fascinant, on va faire une petite pause, une tangente là-dessus. Ce que j'ai toujours trouvé fascinant, moi, je lisais beaucoup de science-fiction en français au début, ensuite en anglais. Puis éventuellement, je me suis rendu compte que j'ai lu Livre de poche. Il prenait des couvertures de certains livres en anglais, puis il les foutait sur n'importe quoi dans les livres en français. Il y avait comme un trafic de art où est-ce que tu regardais le livre, tu disais, j'ai déjà vu cette couverture-là.
Oui.
Et surtout des livres de science-fiction, puis ça n'avait pas rapport le livre, ils avaient pris ça là. Oh, je trouvais ça fascinant. Un jour, je fais un site web pour comparer le art de tel livre, tu sais, toutes les couvertures des livres de fondation, des robots, ainsi de suite. De où est-ce qu'ils ont pogné ça? Parce que pas rapport. Les livres de Frank Herbert.
Des fois, c'était des affaires de Tarzan. Des fois, c'était des affaires de... Oh, oui, j'en ai vu. Il y a quelqu'un qui avait posté à un moment donné un dump sur Imgur, justement. Tu voyais comme quelque chose de très, très populaire dans un comic book ou peu importe. Puis tu voyais la source originale qui n'avait rien à voir. Mais tu sais, le gars, il l'avait pris tel quel. Là, il avait pris la même shape. Il n'y en a pas aussi dans Art and Arcana, des trucs de Dungeons and Dragons.
Oui, c'est vrai.
Puis tu vois que dans le livre original de le Player's Handbook, tu vois qu'ils ont pris ça de genre Ra'an, le fils des âges farouches.
Oui, c'est ça. Il y a des croquis du premier Monster Manual où est-ce que tu vois l'origine de certains des monstres, que c'était des croquis faits comme... Puis tu as l'impression... Tu sais, le art du premier Monster Manual est très, très art naïf, avec un style très particulier, mais oui. Tu te rends compte qu'en réalité, c'était copié de comic book des années 60, littéralement.
C'est juste la personne qui copiait qui était mauvais pour copier, l'original était pas pire.
C'est ça.
Mais justement, pendant qu'on parle de livres, avant qu'on change de sujet, je veux juste mentionner mon ami Pat, qui est comme un être merveilleux, qui me fait découvrir tout le temps les bonnes affaires, tout le temps. C'est lui qui m'avait fait découvrir Steven Erikson, le Malazan Book of the Fallen, qui est comme 10 livres de 8 millions de pages chacun, qui m'a pris 7 ans à lire au complète. Puis il y a bien du monde qui sont juste pas capables. Moi, j'ai adoré ça quand même. Steven Erikson, il a fait une couple de hors-série autour de cet univers-là. Puis, entre autres, il y a deux recueils de short stories, je pense, de nouvelles, qui sont autour de deux personnages, Botchalane and Corbal Broach. Je ne sais pas si je le prononce comme faux, mais en tout cas, c'est deux personnages un peu dark. Là, je pense que c'est comme un genre de nécromancien, là, puis son assistant. Et puis, il y a deux livres déjà publiés. Puis là, il a commencé à faire un autre petit... je pense que c'est une seule histoire, là, c'est pas un recueil. Là, mais il l'écrit à la main, puis il poste une page, une photo de une page à tous les jours. Puis Pat, il m'envoie ma page à tous les jours. Puis
là, ah, c'est vraiment cool!
Oui! Puis je suis content, Louis, de t'annoncer que Steven Erikson utilise une très bonne plume puis une très bonne encre. je reconnais c'est quoi l'encre qu'il utilise. Puis c'est un homme de bon goût. mais c'est ça, ça a l'air cool. J'ai commencé à lire vite. Là. Ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'il y a une belle main d'écriture. On comprend qu'est-ce qui est écrit. Je m'étais dit, je pourrais pas commencer à lire de quoi si je comprends rien de ce qui est écrit, tu sais, même si je l'aime beaucoup. Mais c'est ça. C'était ma mention spéciale la semaine. J'ai hâte de voir combien de pages il va faire comme ça, parce que tu sais, c'est beaucoup de travail. Une par jour.
Oui, puis à la taille de ce roman, je vois pas que... J'espère qu'il ne fait pas généralement à la main.
Tu sais, dans 70 ans, on va être comme... Pat, il va encore m'envoyer ma page à tous les jours. Dans le chat. Ouais. Donc, ça fait pas mal de tours pour les livres pour moi.
Mm-hmm.
On avait pris des notes pour parler de bouffe, mais honnêtement, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur la bouffe.
Non, on pourrait regarder ça pour une autre session, de toute façon. Mais on voulait parler de notre proposition de faire un spécial mensuel sur un sujet spécial.
Oui, dans le fond, c'est ça. Chaque mois, quatre épisodes standards le mardi, puis un qu'on se ferait, on choisirait un week-end qui nous adonne. Peut-être tout le temps le même, peut-être pas, on verra. Ou est-ce qu'on fait vraiment un deep dive sur un sujet? Puis le premier sujet qu'on voulait faire ce mois-ci, c'était l'univers de Warhammer 40 000. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est un univers vraiment riche. Puis comme je ne le connais pas super bien, ça va être le fun d'en parler avec toi, qui le connais un peu mieux.
Oui, je pense qu'il n'y a personne qui le connaît à fond parce que c'est tellement immense. En fait, je pense que ça va être plus au début sur Games Workshop, puis les univers qu'ils ont créés, comment ils sont interconnectés, et faire un petit tour des franchises, puis l'aspect hobby, l'aspect lore, c'est-à-dire histoire, l'aspect jeu également, les mécaniques. Puis, c'est ça, je pense que je vais m'ouvrir le cœur, puis essayer de déverser, puis probablement dire un paquet de faussetés ou où est-ce que des gens qui connaissent ça à fond vont probablement me corriger en disant non, 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 il n'est pas sorti en 92, il est sorti en
Mais
93.
non, ils ne te corrigeront pas parce qu'il n'y a personne qui va l'écouter. Mais c'est pas
Non, mais dans
grave.
leur tête, ils vont dire ça. Mais
Dans
non,
leur.
le but, ça va être d'explorer un sujet qu'on connaît suffisamment pour pouvoir en parler sans être une autorité ecclésiastique
Ah
sur la
non, puis
matière.
c'est ça, des fois, ça va peut-être être juste de parler de nos expériences avec le
Oui,
sujet en question.
exact.
On a plein de bonnes idées, en tout cas. Je pense qu'on a du matériel pour au moins une bonne année.
Ben
Donc,
oui, définitivement.
si le podcast survit aussi longtemps.
Aussi longtemps.
Donc,
Ben,
ben, c'est cool.
oui. Donc, merci Dan pour cet épisode. Je pense qu'on a fait pas mal le tour.
C'est moi qui te remercie.
Ah, c'est gentil.
fait que c'est ça. Bon reste de soirée. Puis moi, je vais retourner jouer à Persona, je crois. C'est
Excellent choix. Moi, je vais me réessayer une dernière fois, une dernière dizaine de fois sur le pit dans Doom. Puis, ça va peut-être assez. Parce que j'essaie de ne pas jouer après trop tard, parce que sinon, à 10h30, quand tu mets à hurler, j'ai l'impression que je vais
la
entendre.
copropriété,
C'est
ouais.
ça. Il y a un voisin qui va venir cogner à la porte et me dire, as-tu besoin d'aide? J'appelle l'urgence. C'est
T'es tout
correct.
correct. Ouais, c'est ça que ça fait. Puis c'est pas bon pour le sommeil non plus, là, si t'es trop énervé là, avant de te coucher, c'est juste pas bon.
Effectivement.
Cool. Ben, à la prochaine.
À la prochaine. Bye bye.
Bye bye.